VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 7 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Mali, un soldat togolais et deux civils tués dans une nouvelle attaque contre les casques bleus de la MINUSMA.
Le roi Mohamed VI souligne que le Maroc veut retrouver sa place naturelle en Afrique dans un discours plein de symbolisme à Dakar au Sénégal.
En Guinée-Bissau, consensus sur le choix d'un nouveau Premier ministre à la faveur de la visite d'une mission de haut niveau de la CEDEAO.
Présidentielle américaine, rien de criminel n'a été trouvé dans des e-mails de Hillary Clinton, récemment découverts, annonce le directeur du FBI.
En Syrie, la force arabo-kurde poursuit son offensive pour reprendre Raqqa, accentuant ainsi la pression sur les djihadistes du groupe État islamique, déjà acculés à Mossoul, en Irak.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine de demain, oui, demain, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 3 morts et 7 blessés dans une attaque contre un convoi de la MINUSMA dans la région de Mopti. De leur côté, les forces armées maliennes ont été encore victimes hier d'une attaque terroriste à Gourma Rarous, nous signale notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Gourma Rarous est l'un des cercles dans la région de Tombouctou. Il est encore victime d'une attaque. C'est dimanche 6 novembre, vers 2h du matin, des hommes armés non identifiés ont attaqué les camps de la garde nationale de Rarous. 3 véhicules ont été emportés, 1/4 brûlé, plus 1 camion-citerne rempli de carburant. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Un léger blessé est remarqué du côté de Fama. Le même dimanche, aux environs de 10h, un convoi logistique de la MINUSMA a été la cible d'une attaque complexe à 45 km au nord-est de Douanza dans la région de Mopti. Selon le porte-parole de la MINUSMA, un engin explosif improvisé ou une mine a explosé au passage du convoi suivi de tirs par des assaillants. Le bilan est de 3 morts, dont un casque bleu togolais et 2 civils qui ont péri lors de l'attaque. Le casque bleu a succombé à ses blessures. La gendarmerie malienne a aussitôt ouvert une enquête sur les circonstances de la présence des 2 civils maliens qui suivaient le convoi de la MINUSMA quand l'attaque a eu lieu. Il faut signaler aussi qu'il y a eu 7 casques bleus togolais qui ont été blessés, dont 3 grièvement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, a été reçu hier soir par le président Ibrahim Boubacar Keïta avant un possible déploiement de casques bleus canadiens dans ce pays. Le Canada veut prendre son temps pour décider quel pays il doit soutenir, a-t-il ajouté, précisant toutefois que son pays n'était pas opposé au risque. En août, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé la mise à disposition de 600 soldats pour des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et jeudi, M. Trudeau avait affirmé qu'une annonce devait être faite dans les prochaines semaines sur un éventuel déploiement au Mali.
En Guinée-Bissau, consensus sur le choix d'un nouveau Premier ministre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Conakry. Ce consensus est intervenu lors de la visite d'une mission de haut niveau dirigée par la présidente de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf, du Libéria. De Bissau, Noua Mankali.
L'annonce de ce consensus a été faite par Marcel Dussouza, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à sa sortie du palais présidentiel à Bissau, mais sans révéler le nom du futur Premier ministre. Le président de la République, José Mario Vaz, a pris la décision de nommer rapidement le nouveau Premier ministre, a ajouté Marcel Dussouza. À la fin des tables rondes avec le PSGC, parti vainqueur des dernières élections législatives, le groupe des 15 députés dissidents du PSGC, le Premier ministre Bassirou Diall, le président de l'Assemblée nationale populaire Cipriano Gassama et le Parti de rénovation sociale, deuxième force politique du pays, il a été lu une déclaration en vertu de laquelle tous les participants à la réunion ont réaffirmé leur engagement de respecter l'accord de Conakry signé le 14 octobre dernier. La déclaration lue par Madame Marjon Camara, ministre des Affaires étrangères du Libéria, prévoit la nomination d'un Premier ministre de consensus et qui qui mérite la confiance du président José Mario Vaz pour former un nouveau gouvernement inclusif dans lequel les portefeuilles ministériels seront distribués en fonction des résultats électoraux. Aussi, la réouverture du Parlement, la mise en œuvre d'un pacte de stabilité, la réinsertion des 15 députés dans le PSGC et le respect scrupuleux de l'accord de Conakry. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
Le Maroc, qui tente actuellement de réintégrer l'Union africaine, veut retrouver sa place naturelle en Afrique. C'est ce qu'a déclaré hier le roi Mohamed VI dans son traditionnel discours du trône. Il l'a exceptionnellement prononcé depuis Dakar, capitale du Sénégal, pour montrer tout l'intérêt que le royaume porte au continent. Le souverain chérifien a également réaffirmé la marocanité immuable du Sahara occidental, litige qui avait amené son pays à se retirer de l'ex-OUA. Mohamed VI est arrivé le soir même en visite officielle au Sénégal depuis le Gabon et après une importante tournée diplomatique en Afrique de l'Est, tournée qu'il a menée au Rwanda puis en Tanzanie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau rebondissement dans l'affaire des emails de Hillary Clinton, du temps où elle était secrétaire d'État. Le directeur du FBI, James Comey, a informé le Congrès que rien de criminel n'a été trouvé après examen des emails de l'ancienne secrétaire d'État récemment découverts. Des précisions avec Timothée Donangmai.
Les agents du FBI ont travaillé sans arrêt pour récupérer ce grand volume d'emails découverts dans un ordinateur saisi dans le cadre d'une autre enquête, a expliqué James Comey dans sa lettre aux législateurs. Après analyse de ces emails, le FBI a décidé de ne pas modifier sa décision initiale de ne pas recommander de poursuites criminelles contre Hillary Clinton, a précisé M. Comey. Nous étions toujours confiants que rien ne conduirait à une révision de la décision du mois de juillet, a écrit la directrice de la communication de Mme Clinton, Jennifer Palmieri, sur Twitter. L'affaire est donc close, mais les démocrates estiment que le mal est déjà fait. La vive controverse a en effet donné l'opportunité au candidat républicain Donald Trump d'intensifier ses critiques contre son adversaire démocrate et de devenir compétitif dans plusieurs États. Battant campagne dans l'Ohio dimanche, Mme Clinton n'a pas commenté la nouvelle décision du directeur du FBI, une affaire qu'elle préférerait faire oublier avant le scrutin du 8 novembre.
En Syrie, la force arabo-kurde, soutenue par les États-Unis, poursuit son offensive pour prendre Raqqa, soi-disant capitale du groupe État islamique. Elle accentue ainsi la pression sur les djihadistes déjà acculés à Mossoul en Irak. Distante de près de 400 kilomètres, Mossoul et Raqqa sont les deux dernières grandes villes contrôlées par le groupe État islamique, qui a perdu une grande partie des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Syrie et en Irak.
Amnesty International accuse les forces kurdes irakiennes d'avoir détruit les maisons de centaines d'Arabes à Kirkuk et de les avoir chassés de cette ville septentrionale. Ce serait apparemment en représailles à une récente attaque du groupe État islamique, a déploré aujourd'hui l'ONG de défense des droits de l'homme. Sur la défensive à Mossoul, face à une offensive des forces irakiennes et kurdes, le groupe sunnite extrémiste avait lancé une attaque contre Kirkuk pour tenter de faire diversion.
L'armée russe a nié aujourd'hui la présence d'enfants dans une école de la province d'Idleb en Syrie où 22 enfants et 6 enseignants ont été tués selon l'UNICEF. C'était le 26 octobre dans un bombardement attribué à la Russie par les médias occidentaux. Aucune preuve, même indirecte, n'a été présentée sur la présence d'enfants dans le bâtiment, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l'armée russe.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Cameroun, la Banque mondiale accorde 59 milliards de francs CFA pour développer le secteur de l'élevage qui emploie près de 30% de la population rurale, selon le journal Messager. Cet appui donné à travers le projet de développement de l'élevage Prodel est destiné, entre autres, à aider les éleveurs à commercialiser leurs produits, à renforcer les services publics en matière de soutien de l'élevage et à améliorer l'accès aux services de santé animale. À cela s'ajoute le renforcement des liens entre les organisations des producteurs, acheteurs et établissements financiers. Le projet est piloté par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Trois pays africains ont attiré les investisseurs lors de l'Africa All Week qui a pris fin le week-end dernier au Cap en Afrique du Sud. D'après Jeune Afrique, le Sénégal est sans conteste celui qui a suscité le plus d'engouement avec la découverte récente de gigantesques réserves de gaz.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe remporte le trophée.
Oui, après son nul 1-1 du match aller, le club de Lumumbashi a étrié la formation algérienne de Mobejaïa sur la marque de 4-1 et remporte enfin le seul titre africain qui lui manquait. Battu par le club sportif sassien il y a 2 ans en finale de cette compétition, les Corbeaux parviennent à soulever ce trophée après avoir glané 5 Ligues des Champions et une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Satisfaction totale pour le coach Hubert Velude au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre radio partenaire.
Disons qu'on avait décidé de vraiment de se livrer offensivement, toujours bien sûr bien groupé derrière avec un bon pressing. C'est ce qu'on a bien fait en première mi-temps, je pense. On n'a même pas assez profité pratiquement de notre trop bon pressing qu'on a fait, les bons ballons de récupération qu'on a gagné au milieu. Terrain, par moment, on ne les a pas assez bien utilisés vers l'avant, mais quand même, de 0 à la mi-temps, ça reste une bonne première mi-temps, très bonne première mi-temps même. Je crois qu'après aussi, on a bien géré la deuxième mi-temps. Il y a eu des bonnes actions, il y a eu de nombreuses occasions de but. On a produit beaucoup de jeux, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait se mettre à l'abri rapidement dans ce match, parce que 1-1 à l'aller, c'est une avance faible, et on voulait vraiment se mettre à l'abri rapidement. C'est ce qu'on a réussi à faire. Parce que 2-0 à la mi-temps, ça nous a permis de jouer après en confiance en deuxième mi-temps. Bah, disons que sur le match de ce soir, la victoire est amplement méritée. Hein. Je crois qu'on a quand même vraiment dominé les débats, hein, que ce soit collectivement ou même au niveau de l'impact physique. On a constaté que quand même physiquement, on s'est bien imposé aussi. Après, le mob à 1 ou 2-0 reste toujours dangereux. Il y a des joueurs malins, il y a des joueurs à qui on laisse un peu d'espace, ils peuvent l'utiliser très vite et on était vraiment rassurés de faire le break. Mais bon, comme tu es un journaliste algérien, je tiens à souligner le bon parcours du mob. Hein. Tu sais comme moi que c'est un club qui monte, hein, qui émerge. C'est pas un grand club d'Algérie, donc c'est vraiment un exploit d'être venu en finale de la Coupe de la CAF. Et nous, on est vraiment aussi très heureux d'avoir battu le peuple.
Le coach Hubert Velude au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre radio partenaire.
Le club de Pretoria a été éliminé de la Coupe de la Ligue d'Afrique du Sud.
Sundowns éliminé par Supersport United au tir au but 3-1, un but partout après le temps réglementaire. Élimination également des Kaizer Chiefs sortis par Free State Star, toujours après la séance des tirs au but 6-5, 2-2 après prolongation. Qualification par contre pour le club de Soweto, Orlando Pirates, vainqueur d'Island Park 2-1.
Super Coupe en Côte d'Ivoire, l'AS Tanda est sorti vainqueur devant COS Sport.
Oui, un doublé de Sanogo Issa a permis à l'équipe de Guntongo de décrocher son premier trophée de la saison devant celle de San Pedro, score 2-1. L'AS Tanda est parvenu finalement à remporter cette Super Coupe qu'il a échappé la saison dernière devant l'Africa Sport.
Football toujours et coup d'envoi de la nouvelle saison au Sénégal.
En ouverture de cette nouvelle saison, Niari Tali a battu l'AS Douane de Dakar 1-0. Tiaraf est allé battre Tiamba 3-1, même score au profit du promu Tenguet, vainqueur de la Ligue. Autre équipe a réalisé une bonne entame, le Casasport de Zingesho, qui a eu raison de Génération Foot 2-1, et puis l'US Wakam a été tenu en échec par Mbou 1-1.
Cyclisme à présent, le Tour du Faso a pris fin hier.
La 10e et dernière étape, longue de 110 km entre Kossimogo et Ouagadougou avec un critérium à travers les principales artères de la capitale burkinabé, a été remportée par l'Algérien Saïd Nassim devant l'Ivoirien Karamoko Bamba. Mais le vainqueur de cette 29e édition, c'est le Burkinabé Haruna Ibudo qui a devancé d'une seconde le Français Vincent Grazik. Et puis basketball pour finir. Avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Utah 114, New York Knicks 109, Portland 100, Memphis 94, Sacramento 96, Toronto 91, Minnesota 75, Dallas 86, Denver 123, Boston 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Cameroun, 28 victimes de la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 80 morts fin octobre ont porté plainte contre les dirigeants de la compagnie Camrail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance, négligence et omission. L'information a été rendue publique par maître Guy-Olivier Motin, membre d'un collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident. John Lindon s'est entretenu avec maître Motin.
Écoutez, beaucoup de problèmes et beaucoup de points demeurent obscurs dans le drame que le Cameroun a connu. Nous avons porté plainte pour le compte des collectifs dans le but de faire la lumière sur toute cette situation afin de pouvoir obtenir une réparation juste pour les personnes qui ont subi un quelconque préjudice.
Quelles sont les chances qu'il y ait un procès dans cette affaire?
Il n'y a pas de pourcentage de chance. Les chances sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde a le droit de saisir la justice dès lors qu'il est convaincu de ce qu'il a souffert un dommage. Donc nous n'avons pas de doute quant aux chances qui peuvent être celles de l'action que nous avons engagée.
À ce moment, vous n'avez que 28 victimes qui se sont signalées. Est-ce qu'il y a d'autres qui pourraient rejoindre le collectif?
Tout à fait. Et il faut bien souligner qu'au commencement de cette affaire, nous n'avions que 2 victimes qui étaient avec nous. Et aujourd'hui, nous en sommes à 28. Chaque jour, nous recevons au moins 2 personnes qui arrivent. Donc, rien n'exclut qu'on n'aura pas un nombre encore plus grand.
Alors, vous portez plainte pour défaillance, négligence et omission. Quels sont les éléments techniques dont vous disposez?
Nous travaillons en même temps avec des experts. Et les experts descendent sur le terrain. Les avocats eux-mêmes ont été sur le site. Il y a des témoignages que nous avons recueillis. Et tous ces éléments nous ont permis de constituer la base légale qui nous a aidés à pouvoir porter plainte. Qu'il s'agisse de l'imprudence, de la défectuosité du système de freinage ou alors de l'homicide involontaire. Les éléments sur le plan du droit ne manquent pas. Nous avons des éléments de fait également qui viennent conforter tous ces éléments-là. Parce que nous avons, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques minutes, nous avons des experts avec lesquels nous travaillons qui donnent des avis sérieusement techniques et qui nous aident à trouver l'incrimination sur le plan pénal.
Comment jugez-vous la manière dont le gouvernement et la société Camrail, y compris le groupe Bolloré, ont géré cet accident jusqu'ici?
Alors vous allez me demander là de porter un jugement de valeur. Nous estimons que le gouvernement, directement informé de cette situation, a décidé de prendre en charge tous les frais relativement blessés. Nous observons également que le gouvernement a commis une enquête qui est en cours d'opérationnalisation. D'ailleurs, je profite pour vous dire que notre collectif a écrit à cette commission d'enquête pour leur indiquer que nous sommes disponibles à apporter nos éléments de réflexion pour que la vérité soit faite. Nous demeurons dans l'attente. Donc, quant à Camrail, vous avez certainement écoutez, comme tout le monde, qu'ils offrent en ce moment 1 500 000 francs aux familles de victimes décédées comme frais funéraires. Pour nous, c'est assez insuffisant. Mais nous travaillons pour que toutes les personnes qui ont été impliquées dans cet accident en tant que victimes puissent avoir la juste réparation, une réparation intégrale. Parce que, dites-vous bien qu'il n'y a pas que les morts, il n'y a pas que les blessés. Il y a des personnes qui sont traumatisées à vie, mais il y a des personnes également qui sont disparues.
C'était maître Guy-Olivier Motin, membre du collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident d'Esseka.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Burkina Faso, on peut de nouveau acheter des parcelles de terrain dans le pays après une interruption des activités de commercialisation sous la transition politique. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains reprend du service avec un accent sur la transparence. De Ouagadougou, reportage d'un de nos correspondants sur place, Issa Napon.
C'est une nouvelle gouvernance qui se met en marche, foi du directeur général de la Sonature, la société chargée de l'aménagement du foncier et de sa commercialisation au pays des hommes intègres. Après une interruption des activités liées aux polémiques successives sur des accusations de corruption et de trafic d'influence d'autorité pendant la transition politique au Burkina Faso, il était important désormais de reprendre les activités en suscitant de la confiance au sein des Burkinabés. Claude Obetapsoba.
C'est de dire à l'ensemble du public que Sonature reprend du service avec de nouvelles règles de fonctionnement qui devraient permettre de satisfaire le plus grand nombre de personnes dans l'équité et la transparence voulue par notre équipe. Vous avez suivi la polémique qui a enflé autour de la Sonature en début 2016 qui a conduit à un changement d'équipe. Donc nous avions le devoir de faire un diagnostic de la situation, identifier les goulots d'étranglement, proposer des solutions avant de reprendre les ventes pour éviter d'envenimer la situation que nous avons trouvée.
Un travail de fond pour montrer patte blanche.
C'est un pari pour nous et je pense qu'aujourd'hui l'ensemble du personnel de la Sonature a compris que Sonature doit donner un autre visage. Donc nous avons fait le choix et nous avons mis des garde-fous. Nous avons d'abord changé les formulaires et aucun formulaire ne sera enregistré deux fois parce que les formulaires sont numérotés et le logiciel est configuré pour enregistrer un seul numéro. Ceux qui viennent enregistrer également leur demande ne pourront pas le faire pour deux demandes. Chacun passera pour enregistrer une demande. Et nous réagissons exactement de la même façon pour tous ceux qui nous sollicitent. Ensuite, je crois qu'il y a un gros problème qui existait aussi dans la sécurité du logiciel informatique, où les gens pouvaient, par des manipulations non maîtrisées, décrocher des parcelles qui avaient été attribuées, qui retombent dans le patrimoine qui était réattribué. Donc double attribution, source de conflit entre des gens. Mais nous pensons que nous sommes aujourd'hui en état de recommencer à faire une vente avec un peu de sérénité, un peu de transparence et puis un peu d'équité.
Des terres dont la superficie va de 300 à 1000 mètres carrés et dont le coût varie en fonction de la position géographique, de la taille et des commodités offertes. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Snapchat ou Skype, un danger pour la vie privée selon Amnesty International. Ces applications populaires pour communiquer tout comme WhatsApp ou Viber ont fait l'objet d'un classement de la part de l'ONG de défense des droits de l'homme. Elle épingle Snapchat ou Skype qui n'ont pas mis en place les mesures élémentaires pour protéger la vie privée, mettant en danger les droits fondamentaux de leurs utilisateurs, selon elle. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Julie Owono d'Internet sans frontières.
Sur le cas de Skype et Snapchat, c'est absolument vrai. Ces entreprises ne donnent d'informations sur précisément les données qui sont collectées, sur précisément qui sont les tiers avec qui ces données sont partagées, ne donne d'informations claires sur comment récupérer les données qui ont été collectées entre-temps et surtout ne donne pas vraiment d'informations sur si on décide de fermer son compte Skype ou Snapchat, est-ce que les données qui auront été récoltées pendant le temps où on a été utilisateur seront gardées par l'entreprise ou bien seront restituées dans leur entièreté à l'utilisateur. Et surtout, une question fondamentale aujourd'hui qui est celle du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire la capacité de ces différentes applications, de ces différents réseaux sociaux de messagerie à mettre en place des protocoles de chiffrement qui permettent que seul votre interlocuteur puisse lire l'intérieur de vos conversations. Aucune de ces entreprises, aussi bien Skype que Snapchat, ne le met en place, ce qui évidemment est assez surprenant ces dernières années.
Et concernant Facebook, qui reste le réseau social préféré en Afrique ?
Concernant Facebook, alors là aussi, il y a beaucoup, malheureusement beaucoup de choses à dire, et surtout en Afrique. Vous savez certainement que Facebook a une stratégie très offensive vers le marché africain ces derniers temps, notamment à travers son offre Free Basics ou Internet.org, qui est donc cette application qui permet à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer des datas, donc de payer des forfaits mobiles, Internet mobile, d'accéder soi-disant gratuitement à Internet. Sauf que il y a évidemment le problème de l'Internet dont on parle, puisque sur Free Basics, vous n'avez accès qu'à une partie d'Internet, de sites Internet sélectionnés par Facebook et ses équipes. Et surtout, sur la question des données personnelles, on est vraiment dans le défaut d'information absolue, puisque la seule information que Facebook donne à ceux qui utilisent Free Basics, c'est qu'effectivement, leurs données personnelles sont collectées, avec des termes très généraux, on ne sait pas précisément lesquels. Et surtout, ces données peuvent être partagées avec des tiers. Et encore une fois, le caractère vague de tiers pourrait signifier que les données pourraient être revendues soit à d'autres sociétés, mais pourquoi pas données à des gouvernements sur demande. Et tout le monde sait aujourd'hui, d'ailleurs c'est que Facebook est très transparent là-dessus, et c'est déjà une très bonne chose, que l'entreprise a eu par le passé et encore récemment à donner les informations personnelles qui figuraient sur son réseau social de certains utilisateurs. Donc évidemment, le réseau social a beaucoup à faire sur la question des données personnelles en Afrique. Contrairement à WhatsApp, qui est donc une filiale qui a été rachetée par Facebook, WhatsApp qui a fait un grand bruit, et c'est très bien, sur la mise en place du chiffrement de bout en bout dans toutes les conversations entre individus qui utilisent cette application de messagerie.
Julie Ovono, Internet sans frontières. Présidentielle américaine 2016, dernière ligne droite de la campagne avant le vote de demain, mardi 8 novembre. Le suspense concerne une poignée d'États clés où la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump concentrent leurs déplacements. Dans chaque État, le vote populaire se traduira en grands électeurs et pour remporter le scrutin, l'un ou l'autre candidat doit arriver au chiffre magique de 270 grands électeurs. Jacques Aristide nous en dit plus.
Dans la dernière ligne droite de la campagne, Hillary Clinton et Donald Trump n'arrêtent pas de labourer les États clés, dont l'Ohio, le New Hampshire, la Floride et le Nevada. Depuis plusieurs années, les États-Unis sont fortement divisés politiquement, avec des États acquis soit aux républicains ou aux démocrates. Le politologue Stephen Wayne de l'Université de Georgetown.
Dans beaucoup d'États, un parti a déjà une très grande avance et il n'y a pas donc lieu d'investir des moyens dans ces États au niveau présidentiel.
Cela laisse environ une douzaine d'États, dits clés ou en anglais swing states, où les candidats à la présidentielle passent la plupart de leur temps. L'expert Jeremy Mayer de l'Université George Mason.
Dans nos campagnes présidentielles modernes, vous n'êtes présent que dans environ 12 États. La liste peut changer d'une année à l'autre, même si depuis les trois dernières années, elle est restée relativement stable.
Les États clés qui attirent le plus d'attention comprennent de grands États comme la Floride et l'Ohio et des plus petits comme la Caroline du Nord, le Nevada et le New Hampshire. Depuis l'élection de 1992 remportée par Bill Clinton, les démocrates ont généralement eu plus de succès dans la conquête des États clés, ce qui rend la tâche difficile pour Trump cette année. C'est du moins ce qu'estime l'analyste Austin Hart de l'American University.
He's got to win voters in Florida, Ohio.
Il doit remporter la Floride, l'Ohio et peut-être aussi le Colorado et le Nevada. Il doit consolider les choses en Pennsylvanie si possible. Il a donc un défi énorme à relever.
Au bout du compte, en fin de campagne, les candidats ne ciblent qu'un groupe d'électeurs dans une poignée d'États, selon Jennifer Lawless de l'American University.
La question désormais concerne les indépendants et il ne s'agit que d'un petit groupe d'indépendants. En fait, il est plus petit qu'on pense. C'est un petit groupe d'indépendants qui vivent dans les États clés. Nous parlons donc d'un très faible pourcentage de la population.
Dans les derniers sondages, Hillary Clinton mène au niveau national et dans plusieurs États, tandis que Donald Trump demeure compétitif dans des États indécis comme l'Ohio, la Floride et la Caroline du Nord.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le monde d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.